Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 13 ans. J'ai appris qu'il y avait la guerre en Ukraine en le voyant sur Instagram et ça m'a tout de suite inquiétée, surtout le fait qu'il y ait des armes nucléaires.
J'ai 8 ans et je pense que c'est totalement débile de faire la guerre en Ukraine.
Moi j'ai 15 ans et c'est pas très rassurant de voir ce qui se passe. Mais bon, on peut pas trop faire grand chose. Enfin, c'est pas comme si j'allais aller me battre en Ukraine quoi.
5 ans. Moi, je me demande pourquoi Poutine attaque l'Ukraine.
La guerre en Ukraine, bah, ça m'intéresse, mais je suis pas trop impliqué. C'est un peu loin.
Moi, je me demande pourquoi aussi il attaque l'Ukraine. Pourquoi certaines personnes disent qu'il va peut-être y avoir une troisième guerre mondiale.
On ne pensait pas avoir à préparer un podcast sur le sujet, mais nos enfants sont de nouveau confrontés à une bien triste réalité. Même si on leur dit que l'Ukraine, c'est loin de la maison, il n'en demeure pas moins que l'actualité peut susciter de fortes angoisses chez nos petits et même nos ados. Impossible de passer à côté, et d'ailleurs, faut-il préserver nos enfants en passant le sujet sous silence? Nous voilà face à un vrai travail d'équilibriste, informé, mais aussi et surtout apaiser les inquiétudes de ceux qui nous posent un milliard de questions. Maman, la guerre est peu arrivée chez nous. On sait également qu'ils en parlent entre eux à la récré, ils s'inventent des tas de scénarios catastrophes pour certains. D'autres ne parlent pas, mais n'ont pas envie depuis quelques jours de dormir seuls, ou bien veulent qu'on laisse à nouveau la porte ouverte, avec la lumière dans le couloir, s'il te plaît, papa. Ils expriment tous à leur manière leur inquiétude, ils ressentent sûrement la nôtre, et on se trouve parfois bien démunis face à eux. Il est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de lire dans nos guides sur la parentalité un « Comment parler de la guerre à nos enfants ?» Eh bien, nous y voilà. On va tâcher aujourd'hui de se faire aider grâce à Perrine Saada, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute et qui s'est déjà attelée aux problématiques en aidant les parents à gérer les émotions de leurs petits lors de la pandémie de Covid. Elle va pouvoir répondre à nos questions afin que nous répondions, nous, à celles de nos enfants, tout en les rassurant. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Perrine Saada.
Bonjour Dorothée.
Bon, alors c'est rigolo, on a le même nom de famille, hein.
Oui.
Voilà. Un sujet qui n'est pas trop rigolo et qui nécessite qu'on fasse un point aujourd'hui. La première question qui me semble importante, à partir de quel âge peut-on parler de la guerre à nos enfants? Et puis si on a un enfant qui ne pose pas de questions, est-ce que vous pensez qu'on doit le devancer et l'évoquer tout de même? C'est pas forcément nécessaire d'en parler.
Alors quand on se demande si on peut et comment parler de la guerre aux enfants, on peut tout d'abord se demander pourquoi, dans quel but leur en parler? Est-ce que c'est pour apaiser, rassurer, informer, partager, transmettre? Et selon son objectif, le parent va adapter son discours à son enfant, selon son âge, son niveau de compréhension, de connaissance et bien sûr son vécu. Donc il n'y a pas d'âge requis pour parler de la guerre aux enfants. Lorsqu'ils sentent leurs parents inquiets ou angoissés, de toute façon, les enfants le ressentent directement. D'autant plus les bébés, qui sont de véritables éponges émotionnelles, qui, comme ils ne comprennent pas encore les mots, s'imprègnent des émotions véhiculées par leurs parents. Donc avec eux, on va rester dans l'émotionnel, leur exprimer ce qu'on ressent, simplement.
Donc on parle à son bébé.
Exactement, c'est bien conseillé. Même des études ont montré que même in utero, les bébés étaient très réceptifs aux paroles de leur maman. Mm-hmm. Et on va simplement essayer de leur parler de la manière la plus réconfortante possible, donc de ce qu'on ressent. Et avec eux, c'est l'intention plus que les mots qu'ils vont retenir et qui va les rassurer. Donc on peut leur dire qu'on se sent inquiet, mais qu'on est là pour eux, sans donner de détails, encore une fois, en utilisant des mots simples. Et l'essentiel est qu'ils sentent leurs parents en lien avec eux, quoi qu'il advienne et quelle que soit la situation. Donc même une situation aussi tragique que celle qu'on traverse actuellement. Mmh. Pour les tout-petits, plutôt 3-6 ans, également, ce ne sont pas tant les mots qu'on emploie qui sont importants que la façon de dire les choses, le ton qu'on emploie. Mmh. Parce que les mots guerre, bombardement, exode, ne sont pas intelligibles comme pour nous, pour les petits-enfants. Donc un tout-petit va aussi davantage ressentir l'émotion qui accompagne le discours du parent que s'intéresser aux mots qui décrivent l'événement. En revanche, attention, cela va prendre de plus en plus d'importance à mesure que l'enfant grandit.
Oui, c'est sûr.
Donc là, il va vraiment être important d'adapter son discours. Donc, que le parent choisisse d'en parler ou pas, les enfants vont forcément en entendre parler dans la cour d'école, sur Internet, aux infos. Ils vont capter des discussions entre adultes. Donc, si le parent n'en parle pas, l'enfant n'aura pas les clés pour décrypter les événements et ne sera pas rassurée par ses principales figures d'attachement, à savoir ses figures parentales, ses parents.
Donc on devance quand même son enfant parce qu'il vaut mieux que nous, on en ait parlé avant, plutôt qu'il revienne à la maison avec ce qu'il a entendu à l'école.
Oui, ce qui arrivera de toute façon inévitablement, mais c'est vrai que c'est mieux d'en parler. Alors, si jamais on n'en parle pas, du coup, ça peut générer chez lui de la peur et de l'angoisse. Mmh. Parce que le risque, c'est que si le parent n'en parle pas, les enfants croient que ça n'existe pas. Pas pour de vrai, alors qu'ils l'ont entendu ailleurs, ou que ça n'est pas important et que les adultes s'en moquent.
J'ai une petite anecdote sur le sujet, justement. Mon enfant de 8 ans, on a pris le parti d'en parler, mais assez peu, finalement, et de manière, on essaye le mieux possible et réconfortante. Mais lui était très angoissé parce qu'il pensait que d'en parler peu, c'était lui cacher, finalement, des choses. Et donc, il était très effrayé du fait qu'on n'en parle pas suffisamment.
Donc là, ça a eu l'effet inverse.
Oui.
Donc, le problème aussi de ne pas en parler, c'est qu'il peut se créer un décalage entre ce qu'il entend de la maison et le silence à la maison. C'est ce qui s'est passé pour votre enfant. Et ce décalage peut être déstabilisant, voire insécurisant pour lui, effectivement. Donc c'est intéressant, parce que là, il est venu vous chercher... Donc il faut lui en parler en essayant de lui faire comprendre que même si la situation est grave, des adultes, à commencer par ses parents, sont là pour le protéger.
Ouais.
Donc le fait de parler des choses représente un véritable facteur de protection pour l'enfant. C'est-à-dire que cela va favoriser son bien-être. Il faut savoir que pour bien se développer psychiquement, et d'ailleurs physiquement aussi, l'enfant a besoin d'amour et de bienveillance, mais il a également besoin de se sentir en sécurité et protégé. Donc cela va agir comme un facteur de protection qui va l'aider à aller bien, à bien grandir, même, encore une fois, dans les situations les plus difficiles, et ça va éloigner les angoisses et les traumas. Alors que, à l'inverse, et on croit souvent le contraire en tant que parent, spontanément, le déni, les secrets, les tabous représentent beaucoup plus de facteurs de risque pour son développement psychique, parce qu'ils vont être susceptibles de fragiliser l'enfant, de lui créer des angoisses, voire des traumas.
On aurait tendance à se dire, bah, mon enfant, il est petit, il vit cette période innocente de l'enfance, on a envie de le protéger, et finalement, le mettre dans une bulle et le protéger n'est pas la bonne solution.
Alors, lorsque l'enfant l'évoque, comment on réagit ? Donc, quel que soit son âge, il faut répondre à ses inquiétudes. C'est essentiel. Il faut être attentif à ses questions, et surtout lui consacrer le temps nécessaire pour en parler.
Mais genre, on bazarde pas, ou on ne dit pas non plus... est-ce qu'on peut répondre ? Ça, c'est une question aussi intéressante. Est-ce que je peux répondre à mon enfant ? Parce que je ne sais pas encore comment lui répondre. Ta question est intéressante, mais j'y répondrai plus tard, le temps que nous, on réfléchisse quand même d'en parler.
Exactement. Si le parent ne se sent pas prêt et dispo, encore une fois, psychiquement, parce qu'il n'est pas prêt à en parler, ou physiquement, parce qu'il faut qu'il finisse la vaisselle ou quelque chose comme ça, il est très important que d'abord, il valide, comme vous avez dit, la question de l'enfant, en disant ta question est importante, dis donc tu es grande, te la poser, c'est formidable, mais je te propose qu'on en reparle à un autre moment ensemble, où vraiment tous les deux on pourra en parler, et tu pourras me dire tout ce qui te traverse, et moi je pourrais être à ton écoute, etc. Donc différer le moment.
On a le temps de se préparer.
Voilà, on a le temps de se préparer. Et être attentif et réceptif quand même au moment où il ressent le besoin d'en parler. Moi, je sais que j'ai beaucoup de patients qui me disent, donc de patients parents, que leur enfant leur parle souvent de choses très intimes et de confidences au moment du coucher.
Oui.
Et c'est vrai qu'on a tendance en tant que parents quand même à dire, écoute, là, c'est l'heure de dormir. Donc, on en parlera demain.
Bah oui.
Donc là, je reviens un peu sur ce que je vous disais à l'instant, où il ne faut pas quand même laisser l'angoisse
s'installer,
surtout avant de dormir, chez l'enfant. Mais en même temps, il ne faut pas lui générer de nouvelles angoisses avec lesquelles il va se retrouver tout seul la nuit. Donc, c'est un équilibre très compliqué à trouver, d'essayer de lui en dire peu, pas des choses angoissantes, mais encore une fois, d'être vraiment plus dans le fait de valider, de légitimer son inquiétude, mais en le rassurant.
Oui, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire, pourquoi est-ce qu'il se pose toujours les questions importantes au moment où on doit aller coucher ? Nous, on se dit, oh non, mais c'est parce qu'il n'a pas envie de s'endormir maintenant, il va reculer. Mais la question fondamentale, on l'a toujours avant de dormir.
Mais parce que je pense qu'à la fois, lui, il est la journée dans le flux de ses activités, de ses réflexions, de ses interactions, tout va très vite. Donc, il n'a pas du tout le temps d'accueillir à la fois ses réflexions et ses émotions. Et puis, c'est quand même un moment privilégié avec le parent. Le parent le couche, il sait qu'il est en tête-à-tête et que là, son parent ne va pas lui dire « j'ai un truc à faire
».
Le moment du coucher est quand même, surtout pour les plus jeunes, assez important. Donc, il sait qu'il a son parent sous la main, il ne va pas laisser passer l'occasion.
Alors, du coup, on disait, est-ce qu'on doit se préparer ? Est-ce qu'on doit choisir nos mots ? Est-ce qu'on... On va écrire un bout de papier, avec quelle métaphore utiliser, est-ce qu'on lit des articles, est-ce qu'on écoute des podcasts comme le nôtre, pour être prêt, même si on se dit notre discours il va être peut-être un peu figé, il va pas être super naturel, mais au moins, même si je manque de spontanéité, je serai prête à parler à mon enfant.
Bah, effectivement, certains parents peuvent avoir l'impression de pas bien maîtriser le sujet, ou de pas se sentir prêt émotionnellement à l'évoquer avec leur enfant. Dans ce cas, ils peuvent effectivement s'informer en amont, se documenter, mais attention quand même à la condition qui digère ces informations.
Le parent.
Voilà, exactement. Ouais. Et qu'il les transmette à sa façon à son enfant.
Ouais, que ça fasse pas copier-coller.
Exactement. Ouais. Sinon, déjà, il risque d'y avoir un décalage entre les propos et les émotions du parent.
Bien sûr.
Et encore une fois, ça peut perturber, voire inquiéter l'enfant. Donc, à part pour les plus grands, il s'agit pas de faire un cours sur la guerre à son enfant. Donc, il est judicieux de partir de ce que dit l'enfant, toujours. Le questionner sur le sens des mots qu'il emploie, pour l'aider d'ailleurs, lui, à développer, à structurer sa pensée. Par exemple, un plus jeune, on pourrait lui dire « c'est quoi méchant pour toi ?» Parce qu'il a entendu parler dire que Poutine était méchant, donc « c'est quoi méchant pour toi ?» Et puis, on peut exprimer l'idée que ceux qui sont méchants peuvent aussi diriger un pays. Parce que là, ça existe. Mais pour lui, un méchant qui dirige un pays, comme il manque un peu de cours d'histoire, c'est compliqué. Et pour les plus grands, on peut remplacer le mot méchant par des termes plus adéquats. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit cru.
C'est-à-dire
pas des termes vraiment qui peuvent le choquer, comme il y a eu pu avoir justement pour les attentats où on entendait parler de décapitation. Ouais, si ça vient de l'enfant, pour les 3-6 ans à peu près, encore une fois, pourquoi pas, mais si ça ne vient pas, il ne faut pas lui parler de ce mot.
D'accord.
Donc pas des termes crus, mais surtout des termes concrets, factuels et précis, parce que ce sont eux qui vont rassurer. Ça aussi, on a tendance à se dire préservons notre tout petit, mais il ne faut pas hésiter à expliquer au tout petit la gravité de la situation avec des mots simples et accessibles. Par exemple, habituellement, quand on n'est pas d'accord, eh ben on discute. Mais il y a certaines personnes qui, parfois, ne peuvent pas faire autrement que d'avoir recours à la violence.
Ouais.
Je ne citerai personne. Voilà, et je pense qu'il est aussi important de s'intéresser à la définition et au sens que l'enfant donne au mot guerre.
Donc on lui demande, on lui pose la question, qu'est-ce que tu entends par guerre ?
Ouais. C'est quoi pour toi la guerre ? Ouais. Ça te renvoie à quoi ? Parce qu'évidemment, ça ne va pas être la même chose à tous les âges et selon tous les enfants. Et quel lien il fait du mot guerre avec d'autres concepts, par exemple ? Ça te fait penser à quoi ? T'en as déjà entendu parler ? T'en parles à l'école ? On sent que ça ressemble à un interrogatoire, évidemment. Voilà, donc il faut veiller à choisir ces mots, mais sans être encore une fois trop polissé, et plutôt à veiller à exprimer son inquiétude que sa peur. C'est plus adéquat de dire à son enfant « je suis inquiet que j'ai peur ». Parce qu'il aura peut-être plus tendance à paniquer s'il se dit « ah, mon parent a peur, donc je ne suis pas protégée ». Alors que l'inquiétude, c'est un sentiment qui est plutôt assez légitime à ressentir. La peur aussi, mais selon l'âge de l'enfant, il faut veiller à l'exprimer
et,
avec...
Et ce n'est pas pour vous minimiser que de dire à un enfant « je suis inquiet, mais pas parler de peur ». On n'est pas à minimiser le sujet.
Non.
Parce que d'ailleurs, est-ce que ce serait une solution pour les plus petits ? De juste leur dire, parce qu'on les voit inquiets, oh, « tu sais, c'est très très loin, ne te préoccupe pas de ça. » Ce serait une solution ?
Non, selon moi, non. Parce que si on veut préserver son enfant, il ne faut pas relativiser.
Non.
À outrance, en tout cas. En fait, c'est essentiel, quand on est tracassé par quelque chose, de l'exprimer. Mais je reconnais que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Donc effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne rien dire en pensant épargner son enfant serait une erreur.
Bon, c'est une erreur. Okay,
parce
donc
qu'encore une fois, il entend tout. Mais on est d'accord qu'il ne faut pas tout dire, selon l'âge de l'enfant.
Alors, du coup, si on essaye de rentrer dans le concret pour aider les parents qui nous écoutent, on a un enfant qui semble effrayé en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui doivent être confrontés à des enfants qui sont inquiets, qui en parlent. D'après vous, quels mots doit-on choisir, utiliser pour les apaiser quand ils expriment notamment avoir peur pour leur vie, avoir peur pour la nôtre aussi, et puis quand ils s'emballent sur d'autres angoisses, après ils sont dans leurs idées, et puis une catastrophe naturelle, et puis ici, et puis l'autre, etc. Alors qu'est-ce qu'on dit pour les apaiser ?
Ce qui est compliqué au niveau temporel en ce moment, c'est qu'on commence à sortir de la crise sanitaire.
Bah oui, les pauvres choux.
Et du coup, avec l'arrivée de cette guerre, il est très difficile de se projeter, comme on l'attendait tous, dans un monde d'après apaisant, dans un avenir florissant, joyeux, détendu, insouciant. Donc là, la guerre en Ukraine vient vraiment entraver le soulagement de la sortie du Covid. Et du coup, l'angoisse de l'enfant par rapport à la guerre, comme elle réside dans son rapport à la mort, il a été vraiment servi entre la crise terroriste, la crise sanitaire et là la guerre. Et du coup, la mort a été particulièrement présente dans la vie de chaque enfant, et parfois même très tôt, puisque vraiment il y a des enfants qui ont 5-6 ans et qui ont eu la mort devant eux, indirectement, le plus souvent heureusement, mais très très souvent et de façon très intense, puisqu'on est passé par des drames quand même assez graves. Donc le rapport à la mort de l'enfant, il dépend aussi de celui que ses parents entretiennent avec, leur propre rapport à la mort. On va pas faire un cours de psychogénéalogie, mais c'est très important. Donc là encore, il convient d'accueillir les questions de l'enfant face à la mort, au sujet de la mort, et de lui répondre, encore une fois, avec des mots simples, concrets, mais sans chercher à enjoliver ou à sublimer. Par exemple, la formule qu'on connaît de « il est parti au ciel », qui certes est très poétique, elle suppose quand même que la personne peut revenir. Donc ça, il ne faut pas le dire pour pas que l'enfant garde cet espoir.
On lui dit « il est au ciel », dans son esprit, pense qu'il est monté, il peut redescendre, c'est ça ?
Alors, peut-être inconsciemment. Mais c'est une idée, du coup, qui peut le traverser et il peut attendre que la personne revienne, en fait.
Ok.
Donc, voilà. Donc, ça, il faut faire attention. Et puis, il faut tenir compte de son âge parce que, selon son âge, il n'a pas encore l'idée que la mort est irréversible.
À partir de quand vous estimez
qu'il a 7-8 ans.
D'accord.
Et puis, ce qu'il faut faire aussi, comme l'évolution est issue de la guerre, même pour nous adultes, sont impossibles à prévoir, il faut plutôt se concentrer et évoquer des événements passés, concrets, que d'envisager des possibilités futures. Genre, ça va devenir international.
D'accord, on projette pas.
Non, la menace nucléaire va arriver, on sait pas de quoi Poutine est capable. Et il faut aussi rester quand même assez positif et montrer à l'enfant qu'on a réussi à surmonter une situation difficile avec le Covid.
Ouais.
Et lui dire, par exemple, tu vois, on s'est adapté, on s'est uni. Si on nous avait dit il y a 3 ans ce qui allait se passer, le scénario était catastrophe. Jamais on aurait imaginé s'en sortir plus ou moins bien et traverser cette épreuve. Donc là, face à un enfant vraiment inquiet, voire terrorisé, il faut quand même, pas enjoliver, sublimer, mais quand même lui apporter des éléments qui vont le rassurer, éviter les scénarios catastrophes, se limiter à ses questions et ne pas se projeter, comme je le disais, dans des situations imaginées ou dystopiques. Et il ne faut pas nier et relativiser les inquiétudes de l'enfant, tout autant que la situation, comme on le disait tout à l'heure.
Ouais.
On peut dire « c'est pas grave ». Non, quand
même. Non, on ne dit pas « c'est pas grave ».
Même à un enfant inquiet, on ne dit pas « c'est pas grave ». Et il faut le faire parler pour le soulager et aussi pour voir ce qu'il a compris de la situation, pour pouvoir rebondir. Donc toujours légitimer son angoisse, parce que ce n'est pas ça qui va l'enfermer dedans. Au contraire, c'est ça qui va l'aider à la dépasser.
Donc on lui dit, quoi, j'entends ton angoisse, j'entends ta peur, j'entends ton inquiétude. Et après, on essaye d'enchaîner sur trouver des exemples concrets.
Pour... Tout à fait, concrets, et puis surtout le rassurer en lui disant, tu sais, il y a des adultes qui sont là pour s'occuper de ce genre de choses et il faut que tu leur fasses confiance. De toute façon, si une catastrophe arrivait, il y aurait des choses qui seraient mises en place, qui seraient organisées et on ne serait pas livrés à nous-mêmes.
Et une question qui me vient, qui pourrait être aussi, je ne sais pas, je vous la pose, pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont eux-mêmes des enfants d'immigrés, dont les parents ont pu vivre eux également des exodes, est-ce qu'il est important de revenir sur l'histoire de la famille et des ancêtres ?
Oui, bien sûr. On disait tout à l'heure à quel point il était important d'être transparent, notamment parce que la façon dont va parler quelqu'un qui a vécu la guerre ou dont les aïeux ont vécu la guerre ne va pas être la même que quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Et forcément, son récit va être chargé d'émotions qui vont être extrêmement palpables pour l'enfant. Donc, il est important de lui en parler. Encore une fois, si on sent qu'on est dépassé, on peut différer le moment et lui dire « Écoute, encore une fois, je vais... » C'est très important ce que tu me poses comme question. J'ai très envie d'en parler avec toi et d'échanger là-dessus, mais je te propose qu'on le fasse à tel ou tel moment.
Alors, moi, j'ai une question quand même qui me taraude, c'est celle de l'école. Parce que je vois, nous, à la maison, on essaye de bien faire, on n'allume pas la télé. Voilà, ça c'est clair que la télé, on l'allume pas. Mais qu'est-ce qu'on fait quand son enfant rentre le soir à la maison, qu'il a parlé avec ses copains ? Moi, mon fils, il nous dit tous les jours, on a parlé que de la guerre à la récré. Et on se rend compte que les petits copains ont eu parfois accès à des infos, des images. On sait que les enfants peuvent s'inventer des tas d'histoires abracadabrantes. Comment les parents peuvent rattraper le coup après le soir à la maison ?
Donc encore une fois, ce que vous dites est tout à fait juste, qu'on leur en parle ou pas, les faits arrivent jusqu'à eux. Comme pour le Covid, le sujet de la guerre en ce moment, il est omniprésent autant dans les médias que dans les cours d'école. Donc ça, c'est une certitude. Or, les angoisses des enfants, elles sont souvent en rapport avec les actualités du moment, surtout concernant des événements aussi anxiogènes. Mais j'ai envie d'être positive là pour le coup, parce que si l'enfant rapporte ce qu'il a entendu ou vu hors de la maison à ses parents, ça veut dire qu'il a besoin de questionner son parent dessus et qu'il lui fait confiance pour lui répondre. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc là, il est essentiel que le parent saisisse la perche pour amorcer la discussion et en parler avec lui. De toute façon, il est impossible de contrôler tout ce que voit et entend son enfant. Mais les parents peuvent l'aider à comprendre ce qu'il a vu et entendu, sans poser de jugement sur tout, en partant de ce qu'il sait, encore une fois, et de ce qu'il a compris, afin d'adapter son propos à son vocabulaire. Et du coup, il faut aussi lui préciser que les images ou les déclarations qu'il a entendues ou vues sont souvent sorties de leur contexte, qu'elles représentent qu'une partie de la réalité, parfois la plus choquante, faut pas se cacher, on nous montre quand même le plus cru, mais pas la plus utile pour comprendre l'événement. Ça, c'est important de le dire, surtout aux ados.
Ouais, bah justement, parlons-en des ados. Moi, j'en ai un aussi à la maison. Je trouve qu'il y a deux problématiques aujourd'hui avec les ados. Bah, il y a celle qui soit tout le temps le nez fourré dans leur smartphone, qu'ils aient accès à tout et n'importe quoi. On parle beaucoup des fake news. Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas ce que voit mon enfant, quel discours je dois lui tenir par rapport à ce qu'il peut voir. Et puis, l'autre question, donc je suis désolée, j'ai deux questions en une, mais quand on a un ado qui est voilà, avec ses écouteurs dans les oreilles et on a l'impression que ça lui passe au-dessus de la tête et qu'on essaye d'en parler avec lui et qu'il me dit oh, « ouais, moi, je m'en fiche pas mal, c'est loin, c'est pas ma vie ». Voilà, deux questions un peu opposées, mais c'est pour voilà, cerner un petit peu comment en parler aux ados.
Et ce sont deux questions tout à fait pertinentes parce que les ados, c'est vraiment un cas particulier qui est assez délicat. Parce qu'effectivement, on ne contrôle pas leur accès aux réseaux sociaux, au web. Donc, il est d'autant plus précieux d'échanger, de partager avec eux sur ce qu'ils ont vu, entendu et compris pour leur proposer notre décryptage.
Ouais, sauf que un ado, 90% du temps, il ne veut pas parler avec ses parents.
C'est certain. C'est pour ça que, idéalement, il faudrait qu'il règne à la maison. Là, les parents vont bondir sur leur chaise. Un climat de bienveillance où chacun peut débriefer lors du dîner sur sa journée et où l'ado se sente libre de dire ce qu'il a traversé dans la journée. C'est une utopie, je suis d'accord avec.
On peut y croire quand même.
Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que même si les ados nous paraissent parfois dilettants, inébranlables ou peu concernés, ce qu'ils ont d'ailleurs plus envie de montrer que ce qu'ils sont vraiment, ils ont aussi besoin d'être rassurés. Il ne faut pas oublier que c'était nos petits bébés, les ados.
Il n'y a pas longtemps.
Voilà, et qu'en eux reste un grand enfant, même s'il a envie de grandir vite, et que là encore, on les rassure, on parle de la guerre plutôt avec eux, encore une fois, avec des faits concrets, mais là, on peut utiliser des arguments plus précis, inscrits dans l'histoire, la situation géopolitique, les règles de la guerre. Il ne faut pas hésiter à parler des enjeux, des différentes organisations internationales. Ça, ils vont apprécier aussi qu'on leur parle un peu comme à des adultes.
Super, moi je trouve ça extraordinaire. Je rêverais, je suis désolée, je suis peut-être un petit peu insistante, mais qu'est-ce qu'on fait face à un ado? Alors je vais citer, ça saoule. On commence à vouloir instaurer cette conversation quand on nous répond, ça saoule, on fait quoi?
Eh bien, justement, concernant les ados qui font mine de s'en ficher, il est possible, c'est pas le cas de chacun, mais il est possible qu'ils se trouvent déjà eux-mêmes en situation de vulnérabilité, parce que l'adolescence, ça secoue. C'est déjà synonyme de changement de repère pour eux. Et quand même, la guerre en Europe, aussi près de nous pour eux, c'est quand même un sacré changement de repère parce que c'est une violence. Si la violence est vraiment quelque chose auquel ils sont quotidiennement confrontés, encore une fois, ou directement dans la cour de l'école, ou sur les réseaux sociaux, ou sur le web, là, on change de violence quand même. On est sur un autre terrain et on est sur celui de leurs aïeux. Et ils n'ont pas forcément ce rapport à la violence et à la guerre comme l'ont ceux qui vivent plutôt dans des pays en guerre ou qui l'ont été. Donc, attention, ils se sentent peut-être pas prêts à accueillir un chaos qui les dépasse et qui les concerne pas directement. Donc, c'est peut-être un peu inconscient. Et ça peut donc, du coup, être un mécanisme de défense et de protection de leur part.
Alors, on gratte ou on gratte pas?
On avance à tâtons. Parce que le déni peut les protéger d'une réalité difficile à supporter pour eux. Trop difficile à supporter.
Ah donc finalement, ce serait peut-être même plus difficile de parler à un ado qu'à parler au plus petit.
Oui, tout à fait. Ah ouais. Bien sûr. Parce que le plus petit va envoyer moins de signaux contradictoire et ça va être un peu plus unilatéral comme discussion. Donc là, encore une fois, il faut essayer de se montrer attentif à un éventuel mal-être, de rester disponible et à l'écoute, même si c'est facile à dire, et essayer de faire en général à la maison, même au-delà de la guerre, au-delà du sujet de la guerre, qu'il n'y ait pas trop de tabous, pas trop de secrets, pour que, encore une fois, quand ça le démangera, il se sente libre et pas honteux de pouvoir parler des choses qui le...
Et on laisse une porte ouverte, on lui dit, voilà, nous on est dispo, quand tu veux, on peut en parler avec toi.
Oui, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles il ne va pas vouloir peut-être s'exprimer dessus. Soit, inconsciemment, il ne sait pas que ça le touche, et du coup, ça met en place ce déni. Soit, en fait, il est dans sa crise d'adolescence, donc il n'a qu'une envie, c'est de s'opposer à vous. Donc, il vous voit inquiet, il va relativiser en se disant, mais c'est bon, là...
Ouais, ça va. On connaît. Est-ce que du coup, pour essayer, quand on a du mal à communiquer, on peut faire d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire, et s'impliquer dans un acte solidaire en famille? Est-ce que c'est une bonne idée, justement?
Alors, s'impliquer dans un acte solidaire en famille est une excellente idée, à condition que ce soit un projet qui tienne à cœur aux parents, mais aussi aux enfants. Vraiment, et avec lequel chaque membre de la famille soit en accord.
On n'impose pas?
Non, parce que le projet d'accueillir une personne réfugiée n'est pas du tout anodin. C'est pour ça que ça doit être un véritable projet de famille. Et c'est d'ailleurs une des premières questions que les associations qui mettent en contact les personnes réfugiées avec les personnes qui les accueillent posent.
C'est-à-dire,
est-ce que vos enfants sont d'accord?
Ok, d'accord.
Est-ce que vous leur en avez bien parlé? Est-ce que vous leur avez exprimé les tenants et les aboutissants? Parce que c'est pas anodin d'accueillir chez soi quelqu'un qui fuit la guerre, qui a donc vu son pays être détruit, qui a peut-être même perdu des proches sur place, qui a vu des scènes extrêmement choquantes, qui a eu peur pour sa vie, et qui a souvent eu énormément de difficultés, et qui a eu peur de perdre sa vie encore une fois pendant ce trajet pour venir jusqu'à nous. On ne peut pas confronter des enfants à ça si nous, ce n'est pas un projet qui nous anime et auquel on pense que l'enfant va adhérer. Après, on ne peut jamais savoir à 100%. Mais en tout cas, il faut vraiment en parler aux enfants, encore une fois avec des mots simples, en leur expliquant, voilà, en ce moment, il y a énormément de gens qui fuient le pays parce que la situation est devenue trop dangereuse pour eux, ils ne sont plus en sécurité. Donc, ils sont accueillis dans les différents pays limitrophes et nous, on voulait vous proposer d'en accueillir un chez nous en lui proposant cet espace pour lui pendant un temps... pendant le temps dont il en aura besoin, avant de trouver un autre logement. Et si on sent vraiment l'enfant effrayé...
Oui, alors... il pourrait avoir peur finalement que la guerre arrive chez lui, c'est ça.
Il faut vraiment respecter du coup son enfant et les signaux qu'il peut envoyer, parce qu'il peut, selon l'âge, encore une fois, pas frontalement dire « Ah ben non, moi je suis contre, parce que... » Voilà. Mais je rebondis là-dessus. Parler de guerre, du coup, ça peut aussi permettre d'évoquer de beaux sujets. Parce que accomplir un tel acte solidaire, c'est transmettre à son enfant des valeurs de fraternité, de solidarité, d'humanité. Et ça, ça peut faire l'effet inverse de ce que vous disiez, et rassurer l'enfant. Ça peut sublimer quand même ce truc horrible de la guerre et montrer que le soutien, l'entraide, la solidarité, la coopération, c'est une façon sécurisante de surmonter cette épreuve.
Donc ça peut le sécuriser.
Oui.
J'ai une dernière question, Perrine, qui me semble assez essentielle. Si on n'arrive pas à en parler, ça peut arriver, on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas parce que nous-mêmes, on peut être très angoissé, très inquiet par la situation et qu'on a peur, on le sait, vous l'avez dit au départ, que les petits sont des éponges, on a peur de le transmettre à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se dit « Non, mais en fait, je ne vais jamais y arriver. »
C'est tout à fait légitime, Dorothée. Évidemment, comme on le disait, ce drame, il fait écho à chacun, en fonction de sa propre histoire, de celle de nos aïeux. Donc déjà, c'est une très bonne chose d'identifier qu'on ne se sent pas d'en parler. Parce que ça veut dire qu'on a le souci de préserver son enfant de notre propre angoisse. Et ça, qu'il s'agisse de la guerre ou d'autre chose, c'est indispensable pour le bon développement de l'enfant. Mais il peut être aussi important d'exprimer son inquiétude à son enfant. Encore une fois, si on la ressent, la nommer. Et le fait de la nommer, elle ne sera pas anxiogène, encore une fois. Sauf si on est vraiment dépassé et que soi-même, on se sent mal. Et qu'on n'arrive pas à gérer. Là, il ne faut pas. Mais ça peut avoir un bon effet aussi d'exprimer son inquiétude, parce que si l'enfant, il sent son parent sincère, ça va l'inciter à l'être aussi. Donc, à s'ouvrir, à se livrer, à se confier. Et surtout, ça va légitimer son inquiétude à lui. Parce que l'enfant, il agit en miroir. On est d'accord pour le meilleur et pour le pire. Mais il faut évidemment... quand même veiller à ne pas se laisser submerger par notre propre émotion et pas lui communiquer sans la maîtriser pour qu'elle ne soit pas anxiogène pour lui. Donc on peut, encore une fois, soit différer le moment, soit si vraiment on ne se sent pas, passer la main à l'autre parent ou à un grand-parent ou à un oncle, une tante, etc.
On se fait aider.
Tout à fait, il ne faut pas avoir honte de ça. Et je voudrais quand même répondre en un second temps à votre question en disant que De toute façon, sur ces sujets, sur des sujets aussi graves qui nous-mêmes nous bouleversent, il ne faut pas essayer d'être le parent de l'année. C'est impossible. Donc, je le dis à tous les parents, déculpabilisez. Il est impossible d'apporter des réponses sur mesure à des questions si graves.
Bien sûr.
Il faut essayer de s'adapter à son enfant. Mais en fait, même si on n'a pas les bons mots, si on n'a pas la bonne attitude, parce que bah, finalement, on est trop stressé et que notre voix tremblote ou qu'on éclate en sanglots, et bah, c'est pas grave. Parce que ce qui est important pour l'enfant, malgré tout, c'est qu'on soit là. Et il n'y a que ça qui est important. Et si on se trompe, si on se prend les pieds complètement et qu'on a l'impression vraiment de ne pas du tout avoir assuré, c'est pas grave. Et on peut aussi toujours rétablir le tir, rectifier le tir en disant après à son enfant, bon bah tu vois, moi-même là j'ai été un peu submergée par mon émotion parce que c'est grave, mais je suis là pour toi et c'est ça le plus important.
Merci beaucoup Perrine Saada.
Merci Dorothée.
Bah, vous avez entendu, voilà, on déculpabilise encore une fois, je pense que c'est le maître mot de notre podcast, et puis le plus important bah, c'est qu'on soit là, et puis après on fait comme on peut, mais tout ce qu'on fait, bah, ça reste bien. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboaziz. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.